1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans cette émission. Il s'agit de notre quatrième rendez-vous autour de protestantisme et laïcité. Aujourd'hui, nous allons parler des propositions de toilettage de la loi énoncées par les protestants. Je veux parler de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, dont il a été question lors de notre rendez-vous précédent. Pour discuter de ce sujet, je reçois Jean-Paul Willem. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences religieuses et docteur en sociologie. Je rappelle que vous êtes également directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, sociologue des protestantismes. Je vous poserai d'emblée une première question pour rentrer dans le vif du sujet. Les protestants ont accepté cette loi de séparation des églises et de l'État. Ils l'ont même appliquée loyalement. En sont-ils toujours satisfaits aujourd'hui ?
Oui, c'est une question un peu surprenante parce qu'effectivement, les protestants restent très très fortement attachés à la séparation des églises et de l'État. Ils ont accepté la constitution des associations cultuelles de la loi 1905 et ils ont été des applicants réels de cette loi. Mais en même temps, aujourd'hui, ils sont sensibles à certains aspects de l'application de cette loi parce que la séparation des églises et de l'État, c'est aussi le traitement équitable des différents cultes et ils ont posé certaines questions en proposant de toiletter la loi 1905 qui a déjà été plusieurs fois toilettée, notamment dès 1907, dès 1908, en raison du refus de l'Église catholique de se constituer en association cultuelle loi 1905, comme on a dit lors de la précédente émission. Et donc, en 2002, la Fédération protestante de France avait élaboré un document, Culte, équité et laïcité, l'expérience protestante, élément d'évaluation de la loi 1905 et proposition de quelques toilettages de cette loi.
Ce qui laisse entendre à travers vos propos que cette loi était devenue inéquitable.
Oui,
entre protestants et catholiques.
Fondamentalement, il s'agit de laisser cette loi avec ses deux premiers articles qui sont très très importants, les grands principes de la séparation, mais quelques problèmes d'application. Je voudrais vous donner trois exemples.
Oui.
Tout d'abord, la constitution d'association culturelle loi 1905 fait référence à la loi sur les associations de 1901. Et donc, lorsqu'il y a des changements relatifs à la loi des associations loi 1901, il y a des répercussions sur les associations culturelles loi 1905 et notamment au plan fiscal. Donc la Fédération protestante de France, dans ce texte de réflexion, a dit il faudrait clairement clarifier que tous les changements relatifs à la loi de 1901 ne s'appliquent pas automatiquement sans examen à la loi de 1905, car sinon ce serait paradoxal, on modifierait la loi de 1905 sans avoir l'air d'y toucher. Donc il y a ce premier aspect, lien entre association de loi 1901, association loi 1905. Il y a un deuxième aspect qui concerne l'article 19 qui précise que les associations culturelles devront avoir exclusivement pour l'objet l'exercice d'un culte. Et dans ce texte de réflexion et de proposition, les protestants, en 2002, avaient proposé de remplacer l'adverbe « exclusivement » par l'adverbe « principalement ». Parce que exclusivement l'exercice
c'est très contraignant.
Culte, c'est très contraignant, c'est uniquement le culte. Donc, qu'advient-il des publications, de l'action diaconale, du soutien aux missions, aux églises à l'étranger, d'autres aspects de l'activité des églises. Et paradoxalement, même si on peut le comprendre historiquement, le fait de définir les associations culturelles uniquement à travers le culte, n'est-ce pas, en fin de compte, une vision un petit peu rituelle et un peu réductrice de la religion que de dire que la religion, c'est seulement l'exercice du culte. Alors, le culte, oui, mais il y a l'enseignement, il y a les publications, il y a l'action solidaire, diaconale, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, en fin de compte, dans toutes les paroisses, il faut former une association cultuelle, bien entendu, pour l'exercice du culte, et des associations loi 1901 pour l'activité diaconale et les autres aspects. Donc, là, il y avait une proposition de faciliter un peu une vision plus large de l'exercice du culte.
Cette loi est quand même assez technique, j'ai l'impression, au final.
Elle est très technique et un autre aspect technique, mais dont on ne voit peut-être pas les conséquences pour le commun des mortels, parce que c'est des choses très, très précises. Le paradoxe, c'est que l'Église catholique a refusé les associations culturelles en 1905. Dès lors, il y a beaucoup plus de propriété publique des édifices du culte catholique que des édifices du culte protestant ou des édifices du culte israélite. Et les communes propriétaires de l'Église peuvent plus facilement financer les réparations de l'édifice du culte que les édifices du culte dont les associations cultuelles sont propriétaires. Donc dans l'application, il y a une inégalité, parce que lorsqu'on est propriétaire d'un bâtiment, on est plus porté à le réparer, même s'il y a eu des lois qui ont permis aussi à ce que des communes financent des réparations d'un édifice du culte dont l'association cultuelle était propriétaire. Mais dans la pratique, il y a quand même une disparité selon qui est propriétaire de l'édifice du culte.
Une chose m'a frappée encore lorsque nous avons préparé cette émission, c'est de découvrir que le mot laïcité n'apparaît pas dans le texte de cette loi de séparation des églises et de l'État 1905.
Non, effectivement, on pense souvent que c'est la grande loi de la laïcité. La laïcité, le mot est apparu à la fin du 19e siècle. Et c'est un élément important de la laïcité, la séparation des églises et de l'État. Mais de fait, la République française est laïque, tout en admettant aussi une région, l'Alsace-Moselle, où il y a une autre forme de laïcité, car en Alsace, on parle de laïcité à l'alsacienne. Alors, certains peuvent contester ce terme, mais il y a différentes façons de régler les rapports entre État et religion. Et la laïcité, évidemment, c'est le principe important, fondamental, d'autonomie respective du pouvoir politique et des pouvoirs religieux, de liberté de culte, mais de liberté aussi de ne pas avoir de religion et de pouvoir exercer sa religion ou sa non-religion. Aucune discrimination des citoyens selon leur religion ou leur non-religion, mais tout va se jouer dans la façon d'interpréter ces grands principes exprimés par la loi de 1905. On peut rester fidèle à une interprétation libérale de cette loi selon son article 1er. On peut avoir des souhaits d'application plus intransigeante.
Oui, et alors cette séparation est acceptée par tous, mais justement il y a les interprétations intransigeantes dont vous parlez, parfois même des instrumentalisations éventuellement politiques, peut-être en réaction face à l'islam, qui vont dans le sens d'une espèce de privatisation du religieux peut-être.
Oui, absolument. Alors que dans le cadre de la loi de 1905, on reconnaît qu'il s'agit de l'exercice public du culte. La loi de 1905 ne signifie pas une privatisation du religieux. La loi de 1905 ne signifie pas une invisibilisation du religieux dans l'espace social public, à distinguer de la sphère étatique. C'est l'État qui est laïque, les institutions publiques, l'école, la justice, toutes les grandes institutions publiques sont laïques, les agents des institutions publiques sont laïques, mais la société civile, elle est très diversement composée, de différentes origines, de différentes sensibilités, et la séparation des églises et de l'État n'exige pas l'invisibilité de l'exercice de la religion dans le débat social, dans la vie sociale, dans la culture. Et on sait qu'aujourd'hui, à la fois à travers les activités proprement culturelles, mais aussi à travers les activités éducatives, sociales, culturelles, générées par toutes les religions, il y a une participation, une contribution importante des cultes à la vie sociale, à la vie culturelle, à la vie artistique aussi. Et donc, l'exercice de la religion ne se réduit pas à l'exercice du culte.
Devant quel défi actuel se trouve cette loi ?
Le défi, c'est un petit peu le défi de la recomposition, l'évolution du paysage religieux de la France, avec en particulier une forte minorité musulmane qui a besoin d'édifices du culte. Et également les recompositions du monde protestant avec l'importance des églises évangéliques et pentecôtistes, avec un besoin aussi de nouveaux édifices du culte. Et donc, par rapport aux legs de l'histoire, la loi de 1905 n'avait pas prévu les clochers du futur, et encore moins les minarets du futur. Et donc, il faut aussi chercher à s'adapter à l'évolution des paysages religieux. Et un grand débat aujourd'hui, c'est la formation des cadres du culte musulman, la formation des imams. Et la République qui se soucie de la formation des cadres du culte musulman, qui peut paraître contradictoire et étonnant, alors que nous sommes dans la séparation des églises et de l'État.
C'est sur ces questions-là que nous allons rester aujourd'hui. Merci Jean-Paul Willem de les avoir évoquées avec nous.
Merci.
Et à bientôt.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.